C'est votre journal, Antoine. Merci, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire qualifie de grave l'affaire des produits Lactalis qui étaient encore en vente alors qu'ils avaient été retirés du marché pour contamination à la salmonelle. Cette affaire a donné lieu, selon lui, à des comportements inacceptables qui devront être sanctionnés. Précision dans un instant, Xavier Demagny. Les partenaires sociaux discutent de la réforme de l'assurance chômage et notamment de son élargissement aux indépendants et aux démissionnaires. Enjeu de cette réunion avec Mélanie Juvé. Les développements de la crise catalane avec les deux principaux partis indépendantistes qui souhaitent que l'ancien président destitué Carles Puigdemont puisse reprendre la tête de l'exécutif régional alors qu'il est toujours réfugié en Belgique, analyse de Marie-Pierre Vérot. Et puis l'accord nucléaire iranien est en question. Donald Trump doit se prononcer sur l'éventuel rétablissement de sanctions américaines contre Téhéran. Le chef de la diplomatie iranienne reçoit à Bruxelles le soutien des Européens. Précision avec Nabila Hamel. On dira aussi un mot de la pression qui monte contre le projet de loi asile et immigration du gouvernement, les condamnations qui se multiplient sur cette circulaire qui introduit notamment des contrôles dans les centres d'hébergement. Une polémique qui va jusqu'au sein de la majorité. Les associations, en tout cas, sont reçues aujourd'hui par le Premier ministre. Commentaire de Ludovic Piétenu. L'invité de la séquence interview, ce sera Stéphane Troussel, le président socialiste du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivier Gesbert.
La vie, mode d'emploi, on va en parler avec notre invité, l'anthropologue Didier Fassin. Il a travaillé sur le système carcéral. Il a beaucoup travaillé aussi sur la raison humanitaire à partir de différents exemples concrets issus de ses travaux d'enquête. Des sciences sociales, la question des migrants, des réfugiés, mais aussi des détenus en prison. On va tenter de donner une autre définition de ce qu'est la vie dans le regard de l'anthropologue.
Tous les éléments d'un scandale alimentaire semblent maintenant réunis après l'annonce par des distributeurs de la vente de produits Lactalis concernés par la contamination à la salmonelle. D'ailleurs, à l'instant, c'est le terme qui est utilisé par le président de l'UFC Que Choisir. On est en face d'un scandale alimentaire et sanitaire. Le ministre de l'Agriculture évoque ce matin en tout cas un dysfonctionnement majeur dans les procédures de rappel des boîtes de lait infantiles. Rappelons qu'au moins 35 nourrissons ont été atteints de salmonellose en France après avoir consommé un lait ou un produit d'alimentation infantile fabriqué dans l'usine de Craon. Pour le ministre de l'économie qui s'est exprimé ce matin sur la question, l'affaire Lactalis est grave, elle a donné lieu à des comportements inacceptables qui devront être sanctionnés et la grande distribution a été convoquée à Bercy ce soir. Xavier Demagny, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors pour essayer de comprendre d'abord, essayons de reconstituer le film des événements, différentes étapes de cette affaire Lactalis.
Le film des événements qui a été reconstitué à l'instant par le ministre de l'économie dans son point presse. Tout a débuté le mois dernier par une première alerte début décembre des services sanitaires. C'est là qu'intervient un premier appel émis le 2 décembre pour du lait infantile, 12 lots d'abord, avec cette contamination de plusieurs nourrissons par des salmonelles. Une semaine plus tard, deuxième rappel, 620 lots sont concernés. Puis enfin, le 21 décembre, l'origine des bactéries est bien identifiée. Là, tous les lots de produits depuis le mois de février, quasi un an de production sont retirés de la vente. Ça représente des milliers et des milliers de boîtes. Mais l'histoire, on l'a dit, ne s'arrête pas là. C'est ce qu'on découvre depuis quelques jours. Des magasins de la grande distribution ont continué à écouler certains de ces lots de produits Lactalis. 2000 produits vendus alors qu'ils n'auraient jamais dû l'être, et notamment dans ces grandes enseignes Leclerc, Auchan, Carrefour, Système U, Cora, Intermarché et Casino reconnaît aussi ce midi avoir vendu 350 articles.
Alors donc, est-ce qu'on peut faire la part des responsabilités, j'imagine, notamment des grands distributeurs?
Alors d'abord, le ministre de l'économie a souligné scrupuleusement le travail des services sanitaires, de la répression des fraudes et de la protection des populations, comme pour dire que l'État avait fait son travail. Bruno Le Maire, dans le point presse qui s'est achevé il y a une petite demi-heure, a insisté sur les nombreux contrôles, les différentes enquêtes menées depuis un mois. En revanche, tout n'a visiblement pas été correctement fait du côté de Lactalis.
Nous avons alerté Lactalis de ses résultats. Faute de réponse satisfaisante, j'ai signé un arrêté ordonnant la suspension de la commercialisation et de l'exportation des produits suspects, ainsi que le rappel de toutes les fabrications, je dis bien toutes les fabrications, ayant transité par l'une des tours de séchage du site de Lactalis de Craon depuis le 15 février 2017. L'État s'est donc substitué à une entreprise défaillante, dont je le rappelle qu'elle est la seule responsable de la qualité et de la sécurité des produits mis sur le marché.
Voilà, première responsabilité, une entreprise défaillante, les mots sont forts. Lactalis est ainsi mise en cause parce que la direction a tardé à répondre aux sollicitations du ministère, parce que certains documents fournis par l'entreprise montraient aussi des incohérences et des lots qui auraient dû être retirés ne l'ont pas été. Bruno Le Maire dit avoir rendez-vous vendredi avec la direction de Lactalis. Le ministre de l'économie est tout aussi ferme avec les distributeurs. Ce sont eux qui sont responsables des produits mis sur le marché, dit Bruno Le Maire. Il les recevra, vous l'avez dit Antoine, en fin de journée. 2500 contrôles supplémentaires vont être effectués. Le ministre dit vouloir engager une réflexion sur les moyens de retrait et de renforcer les sanctions en cas de manquement. Notons qu'une procédure judiciaire est en cours après les plaintes de plusieurs familles de ces nourrissons atteints par les salmonelloses.
Merci beaucoup Xavier Demagny donc pour toutes ces explications.
France Culture, midi 36. C'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, l'élargissement de l'assurance chômage aux indépendants et aux démissionnaires. Une réforme présentée par le gouvernement comme l'une des contreparties aux ordonnances travail.
Donc les partenaires sociaux se sont retrouvés pour en parler ce matin au siège du MEDEF. Et ils ont un mois pour trouver un accord sur la base de cette feuille de route qui a été délivrée par le gouvernement le mois dernier, ou plutôt c'était le mois dernier, à la mi-décembre. Projet de loi au printemps prévu qui doit être discuté donc, et qui va comprendre aussi d'autres réformes, la formation professionnelle et l'apprentissage. Mélanie Juvé, bonjour.
Bonjour.
Un mot d'abord de la philosophie de cette réforme concernant l'assurance chômage, telle qu'elle avait été déjà esquissée, formulée même pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron.
Alors le candidat Emmanuel Macron avait clairement promis d'étendre les allocations chômage de manière uniforme. Dans son programme, il est écrit par exemple « Nous permettrons à tous les travailleurs d'avoir droit à l'assurance chômage. Les artisans, les commerçants indépendants, les entrepreneurs, pour citer quelques exemples, disposeront, comme les salariés, de cette protection. » Emmanuel Macron avait même tweeté lors d'un meeting à Lille le 14 janvier dernier « Je veux que la protection contre le chômage devienne une protection universelle. » Il avait cependant déjà prévenu qu'en contrepartie, le contrôle de la recherche d'emploi serait accru.
Donc on entre aujourd'hui dans l'application de ces principes de campagne, des principes généraux. L'ambition est un peu revue à la baisse. Comment se présentent maintenant les discussions?
Alors il y aura plusieurs points de friction entre les partenaires sociaux. Déjà parce que des conditions ont été émises concernant l'ouverture de ces nouveaux droits. En témoigne la feuille de route délivrée par l'Élysée à la mi-décembre. Si l'idée de départ d'Emmanuel Macron était d'élargir l'allocation à tous les démissionnaires une fois tous les 5 ans, ce ne sera finalement possible qu'avec la garantie d'avoir un projet professionnel et l'allocation serait versée sur une période plus courte et plafonnée. Condition également élargie pour les indépendants. Là aussi, la feuille de route mentionne une indemnisation seulement pour les indépendants en liquidation judiciaire ou le développement des assurances optionnelles. Les partenaires sociaux veulent toutefois négocier sur l'ouverture des droits aux travailleurs économiquement dépendants d'une plateforme comme les chauffeurs VTC ou les coursiers.
Voilà, l'universalisation donc se réduit un petit peu. Une question aussi sur le contrôle des chômeurs dont on a beaucoup parlé. Où en est-on? On discute aussi de ça.
Alors oui, les partenaires sociaux vont a priori plancher dessus. Emmanuel Macron tient à muscler le contrôle des chômeurs. Mais le consensus paraît difficile, avec d'un côté le MEDEF de Pierre Gattaz qui a affirmé récemment vouloir la mise en place d'un contrôle journalier de demandeurs d'emploi, et de notre côté la CGT ou Force ouvrière opposée à une stigmatisation des chômeurs.
Un tout petit mot sur maintenant les comptes, l'argent. Comment est-ce qu'on va trouver de l'argent? Est-ce que ça va coûter plus cher? Est-ce que quelque chose change sur ce plan?
Alors c'est la question qui sera sous-jacente lors de ces négociations. Le régime de l'assurance chômage est endetté à hauteur de 30 milliards d'euros. Or, la suspension des cotisations chômage salarial compensée par une hausse de la CSG pose problème pour les syndicats. La CFDT, Force ouvrière ou la CGT veulent rétablir une part de la cotisation au nom des fondements de l'UNEDIC. D'autre part, l'extension des droits aux démissionnaires et une part des indépendants entraînerait évidemment des coûts. Le gouvernement a toutefois promis une baisse des dépenses de l'assurance chômage pour revenir à l'équilibre de 10 milliards d'euros.
Mélanie Juvé, merci beaucoup. On est en ligne avec Stéphane Troussel, président socialiste du département de Seine-Saint-Denis. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Est-ce que l'extension de ce principe d'étendre l'indemnisation des chômeurs aux indépendants et aux démissionnaires, est-ce que ça vous paraît être une bonne contrepartie finalement à cette loi travail dont on avait dit qu'elle était plutôt favorable aux employeurs?
Oui, mais enfin surtout, il faudrait pas que cette logique, ça soit un tout petit peu de droit nouveau pour les démissionnaires et les indépendants, et surtout en même temps, beaucoup de stigmatisation et de droits en moins pour tous les autres, parce que c'est plutôt ça qui semble
pourquoi
à l'ordre
du
jour.
Pourquoi des droits en moins?
Bah, parce qu'en l'occurrence, avec les règles sur le contrôle qui s'accompagnent d'un discours visant à stigmatiser les demandeurs d'emploi, très clairement, ça vise surtout à réduire l'indemnisation. Il faut que le gouvernement joue franc jeu. Et donc, il ne s'agit pas, encore une fois, que ça soit un tout petit peu de droits nouveaux pour quelques-uns, mais surtout beaucoup de droits en moins pour tous les autres.
C'est la question des insiders et des outsiders qui a un peu occupé la campagne, c'est-à-dire qu'on met tout le monde un peu sur le même plan.
Oui, enfin, j'aimerais surtout que le gouvernement s'attache à traiter un certain nombre d'inégalités profondes qui s'aggravent dans notre société. Enfin, le gouvernement, vous parliez des questions de y compris d'argent et donc d'équilibre financier de l'UNEDIC, le gouvernement trouve un certain nombre de recettes, de ressources fiscales, de moyens dans le budget de l'État pour alléger la fiscalité des plus riches de ce pays. Il a trouvé 3,5 milliards ou un peu plus pour supprimer l'impôt sur les grandes fortunes, pour alléger la fiscalité de ceux qui ont les plus gros portefeuilles d'actions. Bon, il a trouvé des moyens. Donc, j'aimerais, par exemple, à l'occasion de ce débat sur les droits des demandeurs d'emploi, le droit à indemnisation, il y ait, par exemple, un bonus-malus d'instituer dans les entreprises qui ont plus ou moins recours aux contrats précaires, aux CDD.
Oui, effectivement.
Est-ce que c'est à l'ordre du jour?
C'est plus ou moins à l'ordre du jour, mais je suis pas sûr. En tout cas, on verra bien ce que donnent ces discussions. Stéphane Troussel, merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques minutes pour la séquence interview.
La pression monte, Antoine Mercier, contre le projet de loi Asile et Immigration du gouvernement. Il est l'objet d'attaques nourries émanant aussi bien du monde associatif, de l'opposition que des syndicats.
Et oui, avant même sa présentation qui est attendue au mois de février en Conseil des ministres. Donc, les condamnations qui se multiplient, notamment sur cette circulaire qui introduit des contrôles dans les centres d'hébergement. Notre pays est en train de perdre son âme sur la politique des migrants, affirme par exemple Laurent Berger. Son homologue de la CGT, Philippe Martinez, regrette la France, terre des droits de l'homme, qui montre du doigt, les réfugiés et les migrants. Puis il y a cette une de l'Obs cette semaine qui met donc le visage d'Emmanuel Macron encadré de fils barbelés dans des couleurs rouges, blancs et noirs qui rappellent celles de l'Empire allemand. Enfin, très remonté donc aussi les associations qui vont être reçues tout à l'heure par le Premier ministre avec la ferme intention de maintenir cette pression. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Antoine.
Comment expliquer que, alors que l'exécutif semble ne pas rencontrer de très fortes oppositions, par ailleurs, que sur ce sujet-là, il semble qu'il y a un obstacle difficile à franchir?
Bon, c'est vrai que tous ces acteurs que vous venez de citer semblent former un front, en tout cas être en capacité de se coaliser. Il n'y a pas eu, on s'en souvient, cette énergie, cette synergie, dirons-nous, à l'automne contre les ordonnances réformant le marché du travail. Emmanuel Macron, le Premier ministre et son gouvernement ne souffrent pas en termes de popularité. Cette question du droit d'asile, plus globalement de la gestion du flux migratoire, pourrait-elle se révéler être le premier os sur lequel tomberaient les marcheurs? Eh bien non, répond avec beaucoup d'assurance, vous allez l'entendre, le député de Gironde, Florent Boudier, qui vient du Parti Socialiste.
Qu'il y ait une volonté pour un certain nombre d'acteurs, politiques ou pas politiques d'ailleurs, de créer ou de tenter de créer un front face à ce que nous représentons aujourd'hui, ça c'est une évidence. Vous pouvez d'ailleurs y mettre également l'extrême droite et les Républicains tels qu'ils sont présidés par Laurent Wauquiez. Ça c'est une réalité.
C'est-à-dire pas tous avec les mêmes arguments, mais une forme de coalition contre le gouvernement.
Bien sûr, il y a aujourd'hui des radicalités qui s'expriment et dont l'intérêt est de dire il faut qu'une opposition existe dans ce pays. Non, le texte asile-immigration n'est pas un test pour la majorité.
Ne cherchez pas de difficultés là où il n'y en a pas. Les marcheurs marchent sur leurs deux jambes, assure ce député Florent Boudier, c'est-à-dire le respect de la tradition d'accueil d'un côté et en même temps, la nécessité de faire plus pour les reconduites à la frontière. Il parle donc de mauvais procès, de caricature en référence à cette une de l'Obs, d'électoralisme de la part de ses adversaires politiques. Le gouvernement, pour éviter de plus sérieuses résistances, utilise finalement la même méthode de travail que pour les précédents textes, consulter et encore consulter, hier soir avec les députés de sa majorité qui sont plutôt rentrés dans le rang désormais, et puis cet après-midi les associations, et puis pour se laisser du temps, enfin, la présentation de ce projet de loi Asile-Immigration qui est encore repoussé, on parle maintenant de la mi-février.
Midi presque 45 sur France Culture, la suite du journal d'Antoine Mercier, les développements de la crise catalane. Après la victoire des indépendantistes, la question se pose de savoir si Carl Puigdemont pourra gouverner la région depuis son exil bruxellois.
Et oui, en tout cas, il y a les deux principaux partis indépendantistes catalans qui ont annoncé hier qu'ils souhaitaient effectivement que l'ancien président destitué de la région, qui est toujours réfugié en Belgique, reprenne la tête de l'exécutif régional. Marie-Pierre Véraud, une question, est-ce que cela vous paraît possible que M. Puigdemont dirige ainsi la région depuis Bruxelles? en tout cas.
Bien, c'est ce sur quoi les experts juridiques du Parlement catalan planchent depuis plusieurs jours sans parvenir à dégager un consensus, un débat juridico-grammaticalo-politique. Tout dépend en effet de l'interprétation que l'on peut faire de l'article du règlement qui précise les modalités d'élection du président. Le candidat à la présidence, est-il écrit, doit présenter devant l'Assemblée, delante del pleno, son programme de gouvernement et solliciter la confiance de la Chambre. Tout est dans l'interprétation de ce delante des. Le règlement a été écrit avant l'arrivée des technologies permettant une présence virtuelle pour certains experts devant l'Assemblée. Cela implique donc la présence physique, pas par Skype, par écrit ou par personne interposée. Mais tout va dépendre de la constitution du bureau du Parlement mercredi prochain. 7 membres qui seront chargés de dire le droit d'interpréter ce règlement. On sait en tout cas que Madrid compte saisir la Cour constitutionnelle pour empêcher toute désignation de Carles Puigdemont à distance. Mais les difficultés sont à tous les niveaux. Outre la question d'une présence physique ou non de l'impétrant, se pose celle du vote d'investiture. Sans leurs 8 députés, 5 en Belgique, 3 en prison, les indépendantistes n'ont plus la majorité nécessaire. Alors, peuvent-ils voter à distance? C'est toute la question. Le règlement ne prévoit de procuration qu'en cas de maternité ou paternité, hospitalisation, maladie grave ou incapacité prolongée. Pas vraiment pour cas d'emprisonnement. Certains députés élus pourraient alors se désister en faveur du second arrivé sur leur liste, avec une procédure juridique devant un notaire un petit peu compliqué, mais ce serait possible. En tout cas, en tout état de cause, à la fin du mois, le 31 janvier, la Catalogne devra avoir un président, faute de quoi un nouveau scrutin serait convoqué. Une nouvelle partie importante se jouera donc dès la semaine prochaine, mercredi, avec l'élection de ce bureau du Parlement.
Marie-Pierre Véraud, encore une question dans l'actualité. L'accord sur le nucléaire iranien est-il réellement en péril? En tout cas, on attend une décision très importante et qu'on dit imminente de Donald Trump sur l'éventuel rétablissement de sanctions américaines contre Téhéran. Le chef de la diplomatie iranienne, Mohamed Javad Zarif, a reçu tout à l'heure à Bruxelles le soutien des Européens. Nabil Hamel, comment se présente le rapport de force dans cette affaire et l'avenir de ce traité?
Pour le moment, on est face à une Europe décidée à maintenir cet accord que Donald Trump a estimé être le pire signé par son pays. Il a refusé en octobre de le certifier tout en acceptant de renouveler du bout des lèvres la suspension des sanctions. Cette fois, Washington doit se prononcer plus clairement demain, dit-on, ou en tout cas dans les prochains jours. Et l'Union européenne, qui a participé à l'élaboration de cet accord sur le nucléaire iranien, veut réitérer sa position et faire le point sur sa mise en œuvre. La chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a d'ores et déjà assuré ce matin qu'il fonctionne, qu'il rend le monde plus sûr et empêche une course à l'armement nucléaire potentiel dans la région. Le Quai d'Orsay se dit également déterminé à préserver l'accord de Vienne, que la France a contribué, dit-il, à rendre plus robuste pendant les 12 mois d'âpres négociations qui l'ont précédé. L'Europe a donc invité le ministre des Affaires étrangères iranien à venir aujourd'hui à Bruxelles pour des discussions qui ne remettront pas en cause l'accord en lui-même. L'UE pourrait en revanche se faire l'écho d'inquiétudes sur d'autres aspects de sa relation avec l'Iran. Récemment, la France se disait inquiète du programme balistique iranien qui est, je cite, « facteur de déstabilisation de la région ». Si l'on en croit le Britannique Boris Johnson, il y aurait donc une offre de dialogue sur cette question. Le rendez-vous européen de Javad Zarif est vu aussi comme une occasion de parler de la position de l'Iran dans plusieurs pays du Moyen-Orient et de parler des récents développements internes dans le pays, secoués par des manifestations qui ont été fortement réprimées par Téhéran. Les 28 avaient d'ailleurs déploré la perte inacceptable de vies humaines.
Nabila Hamel, merci beaucoup. Puis manifestations aussi en Tunisie, on le sait. L'armée d'ailleurs a été déployée ce matin dans plusieurs villes où des manifestations se déroulent contre la politique d'austérité. Il y a eu un mort cette semaine. Plus de 300 personnes encore interpellées, arrêtées la nuit dernière. La Cour de cassation luxembourgeoise se prononçait ce matin sur la condamnation de deux lanceurs d'alerte, ceux qui étaient à l'origine du scandale LuxLeaks et qui avaient été condamnés donc à une peine de prison. Antoine Deltour et Raphaël Allais avaient été poursuivis par la police luxembourgeoise pour la copie de documents internes du cabinet luxembourgeois. Cette fuite avait donné lieu donc à l'affaire LuxLeaks et aux révélations d'accords fiscaux qui liaient des multinationales avec l'administration des contributions directes luxembourgeoises. Cour de cassation donc, on est toujours au Luxembourg, qui finalement annule la condamnation d'Antoine Deltour, mais qui rejette le pourvoi de Raphaël Allais. Marie Viennot, pourquoi une telle différence de traitement ?
Eh bien parce que l'un est considéré comme un lanceur d'alerte par la justice luxembourgeoise et l'autre non. La définition à laquelle se réfèrent les juges est celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Lors de l'appel, il avait été reconnu à Antoine Deltour ce statut de lanceur d'alerte, mais le Français avait été condamné à une peine de prison avec sursis et une amende pour vol des documents. Autrement dit, divulguer des documents internes, ok, car il y avait un intérêt général à le faire, mais copier ces mêmes documents, non. Là, c'était du vol de données. Les avocats d'Antoine Deltour sont allés en cassation en pointant l'incohérence de ce raisonnement et la Cour leur a donc donné entièrement raison sur ce point. Raphaël Allais, lui, s'est fait connaître plus tard qu'Antoine Deltour. Comme lui, il a transmis des documents à Édouard Perrin, le journaliste de Cache Investigation qui, lui, rappelons-le, a été également inculpé mais acquitté auparavant. Mais les documents de Raphaël Allais, selon la Cour de cassation qui confirme donc le jugement de la Cour d'appel, ne fournissaient, je cite, aucune information jusqu'alors inconnue pouvant relancer ou nourrir le débat sur l'évasion fiscale. Autrement dit, selon les juges, les documents extraits par Raphaël Allais n'étaient pas suffisamment explosifs pour qu'on considère qu'ils sonnaient l'alerte et donc l'acte de les avoir copiés et divulgués reste punissable. Alors Raphaël Allais a déjà dit son intention d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Antoine Deltour, lui, sera rejugé en appel, mais tout concourt à le voir blanchi totalement. Si c'est le cas, il pourra donc être dit et répété qu'Antoine Deltour n'a pas été condamné par le Luxembourg pour avoir fait avancer la justice fiscale en Europe. Ça affiche bien. Tandis que Raphaël Allais, moins connu, risque de poursuivre son combat judiciaire pour être reconnu comme lanceur d'alerte, plus loin des projecteurs médiatiques.
Merci Marie Viennot. On retrouve tout de suite l'invité de la séquence interview, Stéphane Troussel, président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Interrogé à vos côtés, Monsieur Troussel, se trouve Sophie Delpont pour vous interroger.
Oui, bonjour Antoine, bonjour à tous. Stéphane Troussel, bonjour.
Bonjour.
Alors nous nous trouvons actuellement devant l'Assemblée des départements dans le 6e arrondissement de Paris. La conférence de presse donc qui a été menée tout à l'heure, qui vient de s'achever il y a quelques minutes à l'appel des présidents des grandes collectivités d'Île-de-France, donc elle réunit les présidents des départements et une représentante aussi de Valérie Pécresse, présidente de la région, mais aussi Gérard Larcher, le président du Sénat. Gérard Larcher qui est venu apporter son soutien aux élus qui s'inquiètent par rapport à la mise en œuvre du projet du Grand Paris. Il s'est d'ailleurs déjà placé en première ligne en déclarant qu'il s'opposerait avec force à toute tentative de recentralisation en marche, selon ses mots tout à l'heure. Stéphane Troussel, donc pour vous, il y a une question centrale dans ce projet du Grand Paris. La question, c'est comment éviter de creuser davantage les inégalités.
Moi, je suis favorable à l'idée du Grand Paris. Le Grand Paris, ça doit être un outil, effectivement, de développement et en faveur de l'égalité territoriale. Parce que la réalité de l'Île-de-France et de son cœur le plus dense, Paris et les départements de la Petite Couronne, eh bien, c'est un territoire à la fois très puissant, très riche économiquement, mais c'est aussi celui qui est marqué par les inégalités les plus grandes. Inégalités fiscales, territoriales, sociales, financières.
Vous rappeliez des chiffres.
Bah oui, par exemple, les habitants de Clichy-sous-Bois, Montfermeil ou Sevran doivent payer à peu près 3 fois plus d'impôts locaux que les habitants du centre de Paris. Et donc, si on fait une énième réforme du Grand Paris, ça doit, notamment de mon point de vue, eh bien, permettre de lutter contre ces inégalités. Le fait d'avoir, quand on est à Clichy-sous-Bois, Montfermeil ou dans le centre de Paris, je parle de Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Sevran, parce que c'est dans mon territoire de la Seine-Saint-Denis, eh bien, mais c'est pareil pour d'autres, y compris en Grande Couronne, eh bien, on doit avoir le sentiment que on a les mêmes droits, les mêmes services, les mêmes possibilités. Or, ce n'est pas le cas. Et si on fait cette réforme, eh bien, ça doit avoir ça pour objectif. Et moi, je crois, plutôt que de s'agiter sur la gouvernance, le mécano institutionnel qui passionne les hauts fonctionnaires et quelques élus, je préférais qu'on se concentre sur la réalisation rapide des grands projets au service du Grand Paris.
Le 1er décembre dernier, Stéphane Troussel, vous avez refusé de voter le budget 2018 du Grand Paris Express, qui prévoit la création de 2 lignes de métro, le plus grand chantier d'Europe, avec un budget de 2,249 milliards d'euros, qui doit être livré en 2023. Vous avez refusé de voter ce budget avec 8 autres collectivités du Grand Paris, futur Grand Paris. Pourquoi ?
Ben voilà, c'est l'exemple même de ce que je disais. Pourquoi j'ai voulu exprimer mon opposition à ce budget provisoire ? Parce que je suis très inquiet. Le gouvernement nous agite beaucoup avec le mécano institutionnel, le petit jeu là de découpage et redécoupage de nos territoires, de nos départements. Mais il s'apprête, c'est désormais un secret de Polichinelle, à revoir le financement. Peut-être, mais assurément le calendrier des lignes du métro du Grand Paris Express. Depuis des années, on s'est battu, on n'arrête pas de répéter que une des difficultés dans ce Grand Paris, ce qui fait les inégalités, c'est notamment l'incapacité des habitants de banlieue à disposer de transports de qualité performants. Il faut 1h30, 2h pour les habitants, encore je cite cela, de Clichy-sous-Bois ou de Montfermeil, pour aller près des zones d'emploi dans le centre de Paris. Et le gouvernement s'apprête à revoir les financements et le calendrier, c'est inacceptable.
Pourtant, vous mettez un ralentissement, même si le gouvernement fait passer quand même ce budget-là, parce que vous n'êtes pas majoritaire, vous, les collectivités, dans la gestion de ce budget. Pourtant, vous avez l'air de le ralentir en ne votant pas ce budget.
Non, pas du tout, puisque le gouvernement est majoritaire donc dans cette instance. Donc son budget est passé. Mais on voulait par ce vote marquer notre inquiétude. Nous voulons ce métro du Grand Paris Express dans les temps. C'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis des habitants. C'est un engagement que nous avons pris, y compris dans le cadre du dossier des Jeux Olympiques. Il nous faut des transports et c'est un outil pour l'égalité territoriale.
Parce que là, c'est Bruxelles qui remettra en cause ce calendrier.
Mais tout simplement, ce que le gouvernement, au nom du dogme de la réduction des dépenses publiques, ne veut pas donner les financements dans les temps à ce projet.
Donc finalement, merci. Là, c'est un enjeu de pouvoir et de démocratie qui...
Oui, et puis la méthode du gouvernement dans ce débat sur la réforme institutionnelle est insupportable. On pouvait imaginer que le gouvernement, qui se dit moderne, jouerait carte sur table. Et depuis la rentrée, ce n'est que conciliabule, rumeur, papier de presse. Ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est ni moderne, ni efficace. Et je crains que ça aggrave les inégalités.
Merci Stéphane Troussel.
Merci à vous. Merci beaucoup Stéphane Troussel. Effectivement, merci Sophie Delpont avec Sandrine Malon, Météo France. Trois mots pour qualifier le temps: calme, doux et nuageux, 5 à 13 degrés pour les températures du nord au sud. Édition réalisée avec Nathalie Lopez. Prochain journal 18h, Aurélie Kiffer.